un profil plutôt atypique, beau gosse, belle chemise. On s'attendrait plutôt à le voir lorgner les filles, pas du tout. Il surveille amoureusement ses carottes et parcourt le monde, la terre, à la rencontre des autres agriculteurs. En Alsace, il a fondé et préside Bio Bernay, le salon de l'agriculture bio en Alsace qui s'est tenu le deuxième week-end de septembre. Rencontre très naturelle avec Maurice Meyer.
Moi je suis agriculteur, donc je produis des légumes, des céréales et des pommes de terre. En agriculture biologique depuis 1996.
Où est-ce qu'elle est votre exploitation ?
L'exploitation est en Alsace, donc à 30 km au sud de Strasbourg, donc à 5-6 km d'Aubernay.
Et vous en vivez du bio ?
Ben oui, j'en vis du bio, oui, depuis longtemps. Donc, j'avais commencé à reconvertir une partie de ma ferme de mon père avant de m'installer. Donc quand je suis arrivé sur l'exploitation, la moitié était déjà en bio et tout de suite j'ai pu produire des légumes et des céréales bio. Donc chaque année, j'ai dû négocier durement pour récupérer une ou deux parcelles de plus pour faire la reconversion de façon progressive. Donc, moi, je suis arrivé il y a 15 ans, il n'y avait quasiment pas de filière et pas de débouché. Donc, sauf à les vendre sur le marché en direct, où il y avait déjà tous les collègues qui étaient, il n'y avait pas de débouché. Donc, je me suis dit que c'est quand même dommage avec tous ces jeunes qui viennent et qui sont motivés et qui se retrouvent finalement à faire du bio et ne pas avoir de débouché. Donc, l'idée, c'était de travailler sur la filière et de communiquer, sachant qu'en voyant ce qui se passait en Suisse, en Allemagne ou dans d'autres pays, on savait que le bio, ce n'était pas qu'une mode et que ça allait se développer obligatoirement. On savait aussi qu'en France, ça allait être plus difficile parce qu'on est dans un grand pays agricole, agroalimentaire et qui a les intérêts économiques d'abord, quoi. Donc, l'idée d'être dans cette situation, en fait, moi, je me suis retrouvé, avant, je gagnais très bien ma vie, je sais pas, genre 12, 13 000 francs par mois. Et quand je me suis retrouvé comme agriculteur, il me restait ça par an. Je me dis, bon, économiquement, ça va quand même pas très bien. Donc, je suis rentré à deuxième ou troisième année au syndicat bio. Je me suis dit, on peut pas laisser des situations comme ça. Il faut faire de la promotion et accompagner l'agriculture biologique pour qu'elle se développe, là. Et donc, je suis devenu secrétaire du syndicat bio pendant 5-6 ans. Et dans ce cadre-là, j'ai proposé à mes collègues de faire un salon qui permet de rassembler tout le monde parce que chacun travaille de façon très éparse. Donc, on rassemble les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les institutionnels, les associations de protection de l'environnement, du consommateur. Donc, tous les gens qui sont motivés par le développement de la bio, on les rassemble et on se met face au public. Première année, il n'y avait pas de thème. C'était le salon de l'agriculture biologique alsacienne, c'était le début. La deuxième année, c'était le terroir vivant de mémoire. La quatrième année, c'était l'eau, l'Alsace, la vie. Une année, c'était les énergies durables. Une autre année, c'était la biodiversité. Une autre année, c'était la viticulture bio. Et là, on est sur le thème du bien-être animal. Et l'année prochaine, ce sera plus large et plus simple. C'est agir pour l'environnement. Donc voilà la petite histoire du salon. Donc effectivement, on a commencé avec 68 exposants. Donc j'ai dû appeler 10 fois à chaque personne pour réussir à rassembler 68 personnes parce que je les connaissais vraiment. Moi, j'ai travaillé dans le contrôle bio pour EcoCert pendant 5 ans. Donc ça veut dire que tous les producteurs alsaciens, je les connaissais personnellement. Donc je les ai harcelés au téléphone pour arriver à en rassembler 68 la première année, quoi. On est passé de 68 exposants à 95, de 95 à 120. Et donc actuellement, on est à 220. L'année dernière, on était à 210, donc il n'y a pas du tout de recherche de développement à tout craint. On essaie de maîtriser le développement et de rester dans une taille correcte. Et surtout, même au niveau visiteur, quand on a trop de visiteurs, en fait, c'est plus bon. Parce qu'on a une année où on avait 15 personnes devant chaque stand. Donc on ne pouvait plus discuter avec les gens, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus marcher, il n'y avait plus rien à manger. Donc c'était à 10 000 visiteurs, là, c'était pas bon, quoi. C'était anti-qualitatif. Moi, j'ai fait mon premier stage en agriculture biologique en 1987. Mes parents avaient exploitation agricole, donc ils pouvaient tout me faire faire, sauf les engrais, les pesticides. Ça passait pas. Même à 13, 14 ans. Donc à 17 ans, j'avais mes cheveux longs, ma barbichette. Donc je me faisais traiter d'écologiste et tout ça. Et effectivement, j'ai jamais compris pourquoi il fallait détruire l'environnement, polluer la terre pour manger. Sinon, ça fait 10 000 ans qu'on le saurait. Donc j'ai fait des études agricoles d'abord très courtes. Et puis, c'était pas satisfaisant de la compréhension de l'agriculture, de l'agronomie, de la vie. Donc du coup, j'ai fait des études longues après pour creuser un peu. Et effectivement, j'ai beaucoup voyagé aussi. Tour de France à cheval, en m'arrêtant dans les fermes à la nuit. Donc pendant 3-4 mois, comme ça, j'ai pris mon cheval et j'ai fait un petit tour là. Et la nuit, je m'arrêtais ou chez des gens qui avaient des chevaux ou dans des fermes. L'année d'après, j'ai fait le tour de l'Amérique du Nord en stop. Le Grand Ouest, les grandes fermes. Je connaissais quelques personnes, donc j'ai pu aller dans les universités agricoles, chez des producteurs, visiter un peu tout ça au passage. Donc, c'était assez impressionnant à l'époque. Et puis ça augurait un peu déjà de ce qui allait arriver. C'était vraiment pas très beau à voir, la monoculture, même si c'est extensif dans certaines régions américaines quand même. Donc vraiment une agriculture différente, puissante, exportatrice, etc. Donc pas terrible quelque part. Il y avait les prémices de l'agriculture biologique en Californie à l'époque un peu. Donc ça nous ramène. Après mes études, je suis parti d'ici en stop. Je suis descendu jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Donc Espagne, Gibraltar, le bateau quand même, j'ai pas fait la nage, le Maroc, l'Algérie, le Sahara en stop avec dormir dans le sable, la belle étoile avec la lune, c'était magnifique. Le Sahel, donc au niveau agricole, très spécial, très pauvre et puis vraiment dépendant des pluies. Tout ce qui est Afrique tropicale, donc la forêt, tout ça. Puis après, à nouveau, on arrive en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est les OGM maintenant, c'est l'agriculture intensive, c'est le système américain, quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir tous ces différents types d'agriculture, en fait. Quand on est au Maroc, à 25 ans, on retombe au Moyen-Âge, quasiment, avec les gens qui travaillent à la main, les ânes et les chevaux qui sont utilisés pour sortir les grains de leurs enveloppes et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, le Sahel, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment hard. C'est-à-dire quand ils arrivaient même pas, ils n'avaient pas de quoi faire la soudure quelque part en céréales. Donc ça, moi, je me souviens, au Nigeria, des camions qui passaient le matin dans les villes et qui embarquaient des cadavres humains. Donc c'est quelque chose de terrible, quoi. Ouais, donc c'était assez spécial quand même. Pour se poser des questions et tout ça, c'est quand même pas mal, quoi, d'avoir vécu ça. Et après, je suis allé en Amérique du Sud un peu pour voir quand même le côté Brésil, Argentine et tout ça, quoi. Et après, il a fallu que je travaille à un moment. J'avais plus de sous. Et donc, je cherchais du travail. Et c'est là que Raymond Dur me dit, il y a une société de contrôle et certification qui vient d'être créée. C'était EcoCert et qui cherche quelqu'un en Alsace. Donc, j'ai postulé. J'ai rencontré le directeur. On a déjeuné ensemble. Et le jour même, j'étais embauché, quoi. Donc, effectivement, j'avais tout le profil, études supérieures, spécialisation en agriculture biologique. Motivé, connaissant la biodynamie et toutes ces choses-là déjà quand même. C'était le premier contrôle vraiment structuré, organisé, en vue de l'apparition de la réglementation européenne. Donc c'était assez surprenant pour les producteurs aussi. Donc j'ai fait l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, donc c'était déjà pas mal. Et après, j'ai poussé jusqu'à Paris et Lyon, donc tout l'Est de la France. Donc tous les producteurs, les transformateurs, les distributeurs de l'époque. Et à l'époque, le bio n'était pas très cadré, parce qu'au début, on avait 5000 producteurs à certifier. En fin de la saison, il ne restait plus que 3000 certifiables. Donc il y avait encore des gens à l'époque qui faisaient le Lemaire Boucher, les biotournantes et tout ça. Donc là, on a fait un biotournante, c'est-à-dire ils mettaient des engrais, des pesticides, et l'année d'après, ils faisaient du blé, ils n'en mettaient pas, et ils vendaient ça comme bio. Et l'année d'après, ils mettaient à nouveau une culture avec des engrais, des pesticides, etc. C'était pas très net, tout ça, et donc tout ça, ça a disparu. Donc du coup, quand même, 2000 exploitations qui étaient censées être en bio, sur 5000 qui ont disparu. Donc c'était vraiment un gros tri dès la première année. Parce que la réglementation européenne arrivait, c'était strict. Et puis effectivement, il y avait des vrais contrôleurs indépendants. Avant, les organismes envoyaient leurs techniciens. Les techniciens, ils achetaient les céréales, ils vendaient les semences, les engrais. Et ils donnaient la bénédiction en même temps, quoi. C'était d'abord une réglementation française. En 93 a été appliquée l'européenne. Mais en vue de l'application de cette réglementation stricte, les contrôles ont vraiment commencé en 91.
De l'Alsace comme berceau, enfin l'un des berceaux de l'écologie. Et alors est-ce qu'il y a des connexions avec le monde agricole et le monde de la bio ?
Donc la première ferme connue en Alsace qui a fait de la biodynamie, c'était en 1938. Et donc ça, c'est typiquement la proximité de l'Allemagne et de la Suisse qui font ça. Bah oui, en fait, Steiner, il venait tous les étés en vacances à Bar. Et donc il avait un ami qui s'appelait Édouard Churé, qui était un écrivain, un philosophe, etc., qui écrivait des pièces de théâtre aussi. Donc ils avaient une amie commune. Et donc tous les étés, il venait en vacances à Bar, il passait 2-3 semaines, il se promenait à pied au Mont-Saint-Odile, il allait au Val boire un coup et tout ça. Et donc effectivement, l'Alsace a été très facilement conquise par toutes ces choses-là. Et les premiers agriculteurs bio dans les années 60, donc Danny Schmidt nous a dit que son père s'est reconverti en 65, en fait, il devenait membre des fédérations allemandes. Et donc tous les gens des années 60-70, en fait, allaient en Allemagne pour suivre des formations, des visites d'exploitation, etc. Donc directement rattachés, et comme la langue n'était pas un obstacle ici... Voilà, et donc cette histoire avec EcoCert, donc je travaillais dans l'Est de la France, et en fait dès la deuxième année, comme j'avais quand même pas mal voyagé, j'avais un petit bagage linguistique, donc français, allemand, anglais, courant, pas de soucis. Donc la deuxième année, on a commencé à m'envoyer en Sicile, et puis au Burkina Faso, et puis en Colombie, et puis en Afrique du Sud, et puis en Tunisie, en Algérie, en Turquie, au Maroc... au Ghana, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Burundi, en Inde, etc. quoi. Donc en fait, une quarantaine de pays différents, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, la Suisse, le Portugal, la Hollande. Comme je connaissais bien la biodynamie, j'étais agréé d'émetteur international. Donc quand les Allemands avaient un projet en Turquie ou au Ghana, en fait, j'avais la chance d'y aller. Et en même temps, je travaillais pour OCIA, qui est la CIA organique du bio aux États-Unis, donc c'est vraiment OCIA, Organic Crop Improvement Association. Et donc, je travaille pour eux en Europe. Donc, j'allais en Belgique, en Hollande, en Italie et tout ça pour les Américains, quoi. Donc, pendant 5 ans, j'ai fait ça. J'ai à peu près suivi 600 exploitations dans 42 pays différents. Et des fois, pendant 2, 3, 4, voire 5 ans, quand c'était du local ici, quoi. Et donc, en plus de la production, il y avait tout ce qui était transformation. Import, export, donc les ports d'exportation, les conteneurs, les machins, toutes ces problématiques. Donc c'était rencontre avec le ministre de l'Agriculture au Cameroun, rencontre au ministère de l'Agriculture en Colombie pour arriver à débloquer des dossiers où, par exemple, en Algérie, des dattes exportées sont obligatoirement fumiguées avec des produits chimiques de synthèse. Et il faut avoir une dérogation du ministère pour que les produits ne soient pas fumigués afin que les parasites ne soient pas exportés. Des dattes subissaient une fumigation avec un insecticide de synthèse. C'est-à-dire on les mettait dans des chambres, on lâche des pesticides, des insecticides, et c'était obligatoire pour l'exportation. Pour ne pas que les parasites qui soient à l'intérieur soient toujours vivants. Et par exemple, dans la figue, c'est un classique. Dans la figue, il y a toujours beaucoup de bestioles à l'intérieur. D'ailleurs, dans des pays comme la Turquie, c'est la même chose. La figue, c'est un vrai réservoir à insectes. Et donc, pour que les figues soient propres, obligatoire insecticide. Donc, c'était des négociations pour que les produits bio puissent sortir du pays sans subir ça. Et donc, il a fallu inventer d'autres méthodes qui étaient souvent, par exemple, du chocage par le froid. On met les figues à moins 40 pendant 24 heures. Ça tue les insectes. Et donc, tout ça, c'était des négociations assez difficiles parce que ça dépendait de l'État souvent, quoi. Et donc, mêlé à toutes ces histoires d'import, export, réglementation et toutes ces choses-là. Et après, donc, mes parents avaient l'âge de la retraite. Donc, c'était, tu reprends l'exploitation ou tout part en petits morceaux et ça sera irrécupérable. Et donc, j'ai arrêté au bout de 5 ans. J'ai arrêté le 31 décembre 95 et le 1er janvier 96, je me suis installé comme producteur. Et c'était bien vu aussi parce que les parents, ils avaient fait leur truc. Et puis, pour eux, le bio, c'était pas quelque chose de naturel. Et donc, c'était impossible de collaborer, sauf à récupérer des parcelles chaque année un peu. Et donc, eux, ils ont arrêté leur carrière. Et puis, moi, j'ai commencé la mienne. Donc, c'était très bien comme ça aussi. C'est la seule chose à faire devant le géant de la mondialisation. Effectivement, consommer différemment et voir les choses différemment. Sinon, malgré tous les ministres et tous les gens que j'ai pu rencontrer, la marge de manœuvre était toujours très faible. Et souvent, ils voyaient les choses que du point de vue économique, c'est-à-dire exporter. C'est-à-dire que les pays consommateurs et solvables, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe occidentale, c'est l'Amérique du Nord et c'est le Japon. Partout dans le monde entier, le rêve des gens, c'était de produire du bio pour pouvoir vendre plus cher et pouvoir en vivre à ces pays solvables. Donc c'est quand même un drôle de système. Mais en même temps, c'était quand même intéressant que le consommateur européen ou américain soit prêt à payer plus pour avoir une agriculture différente, que ce soit ici ou autre part. Donc moi, je suis d'accord pour l'agriculture locale, pour le développement et tout ça, mais s'il y a des initiatives et des choses importantes ou intéressantes dans d'autres pays, il faut les soutenir de la même façon. Ça, c'est clair, quoi. Mais par contre, tout basé sur l'export ou sur l'import, c'est un mauvais système, ça, c'est clair, quoi. Donc moi, il y a des années où 95% de ma production de ma ferme est vendue dans un rayon de 80 km. Quand on proposait à des gens de communiquer sur l'agriculture biologique, personne ne voulait mettre de moyens. Quand on leur propose de faire un salon, finalement, ils viennent tous, ils participent, ils payent leur stand. Les institutions payent, les entreprises payent, tout le monde paye. Et puis tout ça fait un budget qui dépassait 200 000 euros quand même pour faire la fête pendant 3 jours. Mais en termes de communication, à mon avis, on touche 500-600 000 personnes. Quand même. En plus, c'est quelque chose qui est lié à quelque chose de vivant, avec une rencontre. Les gens vont dans les fermes, il y a énormément de reportages pratiques sur le terrain, plein d'émissions en direct, il y a eu tout ça. Chose qu'on a du mal à obtenir. Autrement. Après, il y a des opérations de communication comme celle de l'agence bio aussi, dans les magasins et tout ça, mais c'est pas la même chose. Quand on peut faire ça sur les exploitations, dans les fermes, dans les endroits où les producteurs sont, c'est beaucoup plus vivant. Et le côté vivant et humain est important en fait. Sinon, on pourrait faire du tout internet ou du tout télévision, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et actuellement, on a plus de demandes que d'offres. Ça, c'est clair, moi, j'ai trop de clients. Bon, moi, je suis en agriculture biologique, je suis aussi en agriculture biodynamique et en marque régionale. Donc, qui que ce soit qui veuille quelque chose, même les gens les plus exigeants, se retrouve toujours quoi, quelque part. Et donc, on n'a jamais assez de produits. Hein. Actuellement, mon exploitation toute petite de 22 hectares permet de faire vivre 3-4 personnes toute l'année quand même. Alors que théoriquement, sur le papier, une exploitation conventionnelle de cette taille ne devrait plus exister. Mes voisins, ils font tous 50 hectares. Et encore avec 50 hectares, ils sont double actifs. Ils vont à l'usine et en même temps, ils font du maïs.
Vous n'avez pas de souci avec la crise des graines germées ?
C'était une période... Moi, je ne fais pas de concombres, donc j'étais tranquille. Et nous, on a fonctionné un peu spécial. Notre saison vient juste de commencer. Donc nous, on ne fait pas du tout de produits primeurs. On ne fait pas de produits bâchés. On ne fait pas de serre. On ne fait pas de tunnel. On ne fait rien. On attend qu'il fasse bon. Et à partir de ce moment-là, on met les choses en place. On les laisse pousser tranquillement. Et l'automne, on récolte. Et donc notre période de commercialisation, c'est de août à mars. Et pendant le reste du temps, on est disponible pour s'occuper vraiment des champs. Contrairement aux gens qui font de la vente directe et qui n'arrêtent pas de courir d'un marché à l'autre et qui finalement, il faut qu'ils s'occupent des champs le dimanche. Quoi. Moi, le dimanche, je pars au week-end, je me promène à cheval ou je fais d'autres choses. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus cool, j'allais dire, que les gens qui sont en vente directe, qui ont 100 produits différents et qui passent d'un marché à l'autre, qui déballent, qui remballent, qui se lèvent le samedi matin à 3h du matin pour aller au marché. Quand ils rentrent à 2h de l'après-midi, ils vont se coucher le samedi. Et il faut la sieste. Ouais, donc on a trouvé un bon équilibre comme ça. Par exemple, notre blé, tout le blé va chez un agriculteur voisin qui fait de la farine et qui a comme client un boulanger bio. Et donc c'est un circuit très très court en fait. Et tout par là-dedans. Donc même quand il y a la crise du prix des céréales, chez nous le prix n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc on a une ferme voisine à 6 km qui est en biodynamie aussi depuis 30 ans. Et donc eux, ils ont des vaches laitières, mais ils sont un peu en début de montagne. Donc ils n'ont jamais assez de fourrage et pas de qualité. Donc on leur produit la luzerne, ce qui nous permet d'avoir la luzerne dans la rotation. Tous les céréales secondaires, orge, avoine, tout ça, on leur produit ça pour leurs animaux. On leur donne toute notre paille et on récupère le fumier. Avec ce fumier, on va faire le compost biodynamique qu'on réutilise à nouveau pour notre production de légumes. Donc on est sur un circuit fermé à 6 km d'écart. Donc on a la chance de pouvoir faire ça, quoi. Et donc on a quasiment notre compost est fait à base de fumier biodynamique bio. Ça c'est le top quoi. Parce que c'est assez rare un producteur en bio, normalement il donne pas son fumier, il le garde pour lui quoi. Dès la deuxième année, on a eu la chance d'avoir le ministre de l'Agriculture qui est venu. Et à l'époque, il s'est positionné sur les soutiens à l'agriculture biologique, le problème des pesticides naturels et la mise en place des primes et des sous pour la reconversion parce qu'il n'y avait pas de sous à l'époque dans les caisses. Quoi. Donc Bussereau est venu et il s'est engagé à faire des choses concrètes pour l'agriculture biologique. Et c'est ça qui était intéressant. Et il y avait 300 élus qui étaient là, de toute l'Alsace. Tous les députés, les sénateurs, les conseillers, ils étaient tous alignés. On avait un grand chapiteau de 300 personnes ici. Tous les syndicalistes régionaux étaient contre. Donc ils étaient opposés à la visite du ministre. Quand dans une région, ils ne veulent pas qu'un ministre vienne, ils arrivent à le faire savoir et il y a des sacrées histoires. Quoi. Et donc le député qui était là, Antoine Hert, donc c'est lui qui s'est arrangé avec Bussereau en direct. Parce qu'à l'époque, il était en train de travailler sur la loi d'orientation agricole et donc il le voyait tous les 15 jours. Donc moi, je lui ai donné le dossier et le lendemain matin, il avait déjeuné avec lui. Et donc Bussereau a eu le dossier direct en 12 heures, de main à main. Et il s'est engagé à venir, quoi. Et en même temps, on avait des manifestations anti-OGM sur le site. Parce qu'en même temps, le ministre traitait le dossier des OGM, quoi. On pensait mettre 10 ou 15 ans pour établir le salon de la façon dont il est aujourd'hui, au bout de 7 ou 8 éditions, quoi. Et donc, il y a un vrai mouvement de fond en viticulture. Et en fait, en viticulture, les gens, ils cherchent l'expression du terroir. Donc pour ça, il faut que le sol, il soit vivant. À partir du moment où il est vivant, donc il a un sous-sol particulier, et il va donner un vin différent des autres vins. Donc fini la bagarre avec l'Afrique du Sud, l'Australie, le Chili, la Californie, non, chaque vin est différent. C'est ça qui intéresse le viticulteur. Et en même temps, souvent, il a du terrain en pente. Ils ont eu beaucoup de problèmes d'érosion. Il y a 30 ans, toutes les vignes étaient désherbées à fond, et quand il pleuvait, la terre, elle partait. Or, quand vous avez certains vignobles qui valent 200 000 ou 300 000 euros à l'hectare, donc là, le capital, finalement, on va en prendre soin de façon durable. Et en même temps, les viticulteurs, ils savaient que pour arriver à quelque chose de différent et de pointu, en fait, il fallait travailler sur le sol. Donc tout est dans le sol et après dans la cave, bien sûr, quoi. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui exportent beaucoup. Donc à l'époque, les Américains ont toujours fait du protectionnisme par rapport aux pesticides et aux réglementations. À partir du moment où je fais du bio, j'utilise plus les pesticides de synthèse, je passe plus facilement dans le marché japonais et dans le marché américain. Et donc, il y a des gens qui ont fait de l'opportunisme un peu. Mais comme c'est tellement difficile à faire quand même, c'est une vraie remise en cause. En fait, des opportunistes purs, et ils ne restent pas longtemps. La viticulture est un monde différent de l'agriculture. Plus de moyens, plus de formation. Des gens qui font leur propre transformation, leur propre commercialisation. Ils soignent les clients, ils vont les voir, ils vont à l'étranger, ils vont visiter les autres vignobles pour comprendre ce qui se passe. Donc ça n'a rien à voir avec le producteur qui a des vaches et qui sort finalement jamais de chez lui. Et donc à une époque, on a vraiment du mal à trouver des gens pour nous aider dans les champs. Maintenant, ça a changé. Grâce à l'arrivée d'Internet et du téléphone portable, tous les jeunes ont besoin d'argent. Et là où personne ne voulait travailler dans les champs il y a 10 ans, j'ai à peu près 50 demandes chaque année pour 10 offres. Bon, maintenant on a déjà les enfants de nos consommateurs qui viennent travailler à la ferme. On a beaucoup de stagiaires, on a eu des gens du Brésil, des gens de Madagascar, donc il y a énormément de brassage en fait. Et on a chaque année, on a 2-3 personnes qui se forment tout en travaillant à la ferme et qui s'installent comme agriculteurs après quoi.
Vive la carotte bio, elle a supplanté la morale de la carotte et du bâton au profit de la carotte et de la récompense, même s'il s'agit d'un téléphone portable. Il s'agissait surtout de Maurice Meyer, le président de Bio Aubernais, le salon de l'agriculture bio en Alsace. Il se tient chaque année dans la très jolie ville d'Aubernais, au sud de Strasbourg.